On pourrait faire une capsule temporelle. C'est quelque chose qui permet de capturer un fragment d'une époque pour les transmettre aux générations futures.
Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je suis toujours à Lieu d'être, à Romans-sur-Isère. Et donc cette fois, nous avons rendez-vous avec les responsables du centre et qui vont nous expliquer un petit peu le fonctionnement. Enfin, il y a des fonctionnements différents. Et je vais les laisser se présenter.
Alors, moi, je suis Madame Ressindi et je suis donc la psychologue coordinatrice sur l'accueil de jour Lieu d'être depuis 13 ans, il me semble. Ma mémoire flanche.
Et moi, je suis Sophie Michon-Puzin, je suis responsable du dispositif accueil de jour et plateforme de répit pour les aidants. Donc, l'accueil de jour a ouvert en 2009 et la plateforme en 2012. Je vais vous parler, moi, juste de ce dispositif qui s'appelle donc une plateforme de répit pour les aidants. C'est un dispositif qui vise à promouvoir le répit des aidants en proposant diverses solutions adaptées à leur situation. On est sur le territoire de la filière gérontologique Drôme Nord-Sud-Grésivaudan, qui est un territoire qui va à peu près de Saint-Marcellin jusqu'à Tournon, plutôt en passant par Romans, bien sûr, et la Drôme des Collines. Donc, dans ce territoire, les bénéficiaires peuvent nous appeler pour voir ensemble des solutions de répit adaptées pour se soulager de temps en temps et confier leurs proches ou mettre à disposition des professionnels au domicile pendant leur absence.
Alors, juste une question, est-ce que ce sont forcément des gens qui ont des problèmes cognitifs ou pas du tout? Ça peut être juste des personnes âgées ou... Voilà.
Alors, évidemment que ça peut être un peu plus large que des personnes atteintes de troubles cognitifs. Les plateformes de répit ont vocation à élargir leur mission et prendre en charge des personnes des maladies chroniques, invalidantes, handicapantes, sur ce secteur géographique dont je vous ai parlé, sachant qu'il y a d'autres plateformes sur le territoire qui ont des répartitions géographiques et également de typologie d'aidants. Mais nous, sur notre plateforme à nous, on peut aider des aidants, de personnes âgées, avec des pertes d'autonomie et ou des troubles neuroévolutifs.
C'est juste les personnes âgées ou il y a les enfants ou...
Les enfants font partie d'une autre plateforme qui s'appelle la plateforme Handicap et qui est sur tout le département de la Drôme et qui est portée également par l'association des PPCRA.
D'accord, ce qui n'est pas géré par la plateforme dont tu parlais avant, non?
C'est ça. Ah, c'est okay. Ça fait deux plateformes différentes portées par la même association.
D'accord.
Voilà. Et puis sur le territoire, il y a d'autres plateformes. Il y en a une à Valence, il y en a une du côté de Nyons, et qui ont aussi pour vocation de s'occuper des personnes porteuses de maladies neuroévolutives ou en perte d'autonomie.
Donc l'autre association, puisque c'est la même, c'est pour les enfants autistes et tout ça, hein, c'est ça. Donc, il y a une spécificité.
Pour les porteurs de handicap. Quel qu'il soit, porteur de handicap, quel qu'il soit, enfant, adulte, donc on s'adresse à tous les aidants de ce public-là.
Et alors, je pense qu'il y a une prise en charge tarifaire qui est intéressante, hein, s'il me semble.
Alors, les plateformes de répit, comme elles ont vocation à fournir un peu d'air aux aidants, l'idée, c'est de ne pas avoir des tarifs trop élevés. Donc, tout ce qui est de l'ordre des groupes de parole, c'est gratuit. Les relais au domicile sont payants, mais on laisse un reste à charge de 3 euros de l'heure pour les familles. Voilà, donc que ce soit de jour ou de nuit, puisqu'on fait aussi souvent des répits de nuit, en respectant évidemment le code du travail. Donc les personnes peuvent aller au domicile relayer des aidants pour des nuits de 10 à 12 heures, pour leur permettre éventuellement de passer une soirée chez des amis ou faire autre chose.
Ça peut être par exemple sur une semaine quand les gens veulent partir en vacances par exemple.
Et ça peut être sur une semaine quand les gens partent en vacances. On a des professionnels qui peuvent se relayer pour pouvoir permettre à l'aidant de s'absenter.
D'accord. Les tarifs, ils sont en fonction d'un revenu ou ça n'a rien à voir? C'est pour tout le monde pareil?
Alors, nous, sur notre dispositif, on a validé que c'était pour tout le monde pareil. Sur la plateforme handicap, il y a la notion du quotient familial, puisque ça touche quand même beaucoup les enfants. Donc, il y a le quotient familial qui va rentrer en jeu. Mais du coup, ça va élargir entre 2 euros et 5 euros le reste à charge. Ça reste quand même des restes à charge très accessibles. Donc, il faut évidemment que ce soit de façon ponctuelle. On ne remplace pas des services d'aide à domicile ou du soutien pérenne et permanent. On est là pour le répit des aidants de façon ponctuelle, même si des fois c'est un peu récurrent, parce que le répit peut être d'aller au yoga, et si sur ce horaire de yoga, ben, la personne n'a plus d'heure dédiée dans son plan APA, ben, on peut aussi valider que dans le cadre du répit, on permette à l'aidant de s'absenter une heure par semaine pour aller au yoga. Et nous, on trouve des professionnels qui vont aller au domicile pour 3 euros de l'heure.
Okay.
Voilà.
D'accord. Donc c'est très différent de ce qui se passe ici, qui est donc un accueil de jour.
Oui, ici, l'accueil de jour, c'est à destination des personnes que l'on accueille, donc des personnes qui sont porteuses de maladies neuroévolutives. Dans un second temps, ça soulage en effet leurs proches aidants, puisque la personne vient une journée ici, mais sans priorité pour la personne concernée par la journée ici. Donc, ce sont des personnes qui sont plutôt en début de maladie, parce qu'il faut pouvoir être à l'aise dans un groupe de 12 personnes. Elles sont 12 à venir passer une journée dans la semaine. Donc, chaque jour, c'est un groupe de 12 personnes différentes. On va les chercher à leur domicile et on les ramène à leur domicile. Et elles viennent en fait passer un moment de convivialité avec d'autres personnes qui ont des difficultés plus ou moins similaires, avec des activités qui sont adaptées à leur possible, dans une ambiance plutôt agréable et joyeuse, parce que l'objectif est donc de ralentir l'évolution de leur maladie à travers un lien social plutôt plaisant, en nourrissant leur estime de soi et en valorisant tout ce qui est encore possible de faire malgré un diagnostic inévitable et qui va évoluer malheureusement au fil des ans.
Donc on part du principe quand même qu'il ne faut pas que ça soit trop évolué, c'est ça ?
Disons que quand c'est des personnes qui sont à un stade trop évolué, le groupe devient anxiogène parce qu'il y a trop de bruit, il y a trop de mouvements, il y a trop de stimuli. Donc il va y avoir des troubles du comportement à cause de cette ambiance trop stimulante. Donc en effet, ça devient compliqué de leur proposer une journée dans un groupe de 12.
Comment vous l'évaluez ça ? C'est-à-dire que les gens ils viennent déjà faire un essai ou comment ça se passe ?
Donc pour s'inscrire à l'accueil de jour, il y a un entretien d'accueil, donc avec moi-même en tant que psychologue, leurs proches aidants, et puis donc la personne concernée. Lors de cet entretien, on fait connaissance. Généralement, on arrive déjà à sentir un petit peu où en est la personne. Et suite à cet entretien, on a aussi une idée du jour qui peut lui correspondre en fonction de la dynamique. Il y a des jours un petit peu plus dynamique que d'autres, des jours où ça va être plutôt axé sur des activités motrices, d'autres un peu plus intellectuelles. Donc en fonction déjà de ces ambiances-là, on va identifier le jour où la personne sera le plus à l'aise. Une fois cette journée identifiée, le jour où il y a la place, parce que comme on n'accueille que 12 personnes, il faut qu'il y ait une place. Une fois qu'il y a une place, la personne vient essayer. Ça lui convient, eh bien on poursuit. Ça lui convient pas, on essaye quand même de poursuivre un petit peu parce qu'on s'est rendu compte qu'il faut au moins 6 séances pour que la personne soit vraiment à l'aise et que nous, en tant que professionnels, on ait aussi conscience de ses habitudes et de ses besoins et qu'on puisse y répondre du coup.
Donc c'est vraiment la personne qui prime plus que l'aidant, c'est ça ?
Oui.
Hein, c'est pas tout à fait un répit. C'est la différence avec
le processus dont on parlait avant.
Oui, en fait, le répit va être la motivation secondaire. Si on prend contact avec l'accueil du jour parce qu'on est épuisé et qu'on veut une journée pour se reposer en tant qu'aidant, c'est déjà que c'est trop tard, l'accueil du jour. Que si on prend contact avec l'accueil du jour parce que son proche a une maladie, on aimerait qu'il puisse avoir des activités pour stimuler ses possibles et puis qu'il trouve encore du plaisir en fait à se réveiller le matin, là, c'est l'accueil de jour, en effet. Mais évidemment qu'en second, il y a un répit l'aidant. Mais c'est vrai que c'est secondaire, oui. Et donc, des fois, on arrête des prises en charge parce que la personne n'est plus à son aise au sein de l'accueil de jour et qu'on n'arrive plus à répondre à ses besoins. Et l'aidant nous dit, là, j'ai besoin de vous parce que moi, je me fatigue. Mais c'est plus l'accueil de jour. En tout cas, pas un dispositif où on accueille 12 personnes.
Et donc, dans ce cas, après, vous les dirigez sur quel établissement ou...
Ça peut être la plateforme de répit qui va proposer quelque chose. Ça peut être aussi un conseil de retourner vers l'APA qui va augmenter le plan d'aide, parce qu'il y a peut-être besoin de plus d'aide à domicile. Ou ça peut être aussi un autre accueil de jour qui accueille que 5 ou 6 personnes, il y en a sur le territoire, où des fois les ambiances sont un petit peu plus cocoon, un peu plus contenant en fait, donc peut-être plus adapté aussi.
Est-ce que vous avez rencontré cette difficulté en fait, parce que j'imagine que les aidants, quand ils viennent vers un accueil de jour, c'est que déjà ils sont à un stade où ils n'en peuvent plus peut-être, non ?
Pas forcément. Tout va dépendre de leur parcours médical. On est conseillé par les médecins généralistes, par les neurologues, les cabinets infirmiers, tous les professionnels en fait qui sont autour de la personne malade peuvent nous conseiller. Et très souvent, quand les personnes viennent nous voir sur conseil de ces professionnels-là, ils arrivent au bon moment généralement. Ouais. Ou des fois, c'est aussi le bouche à oreille. Après, bien sûr qu'il peut y avoir des personnes qui arrivent tard dans leur parcours et là, en effet, on est un peu démunis pour leur proposer quelque chose, mais ça devient de plus en plus rare quand même.
D'accord.
Oui. On arrive à toucher des personnes qui viennent juste d'être diagnostiquées, en fait.
Okay. Et pareil, au niveau de tarification, il y a des aides à ce niveau-là pour la famille pour...
Même principe. La personne accueillie, elle peut avoir des aides financières si elle a un dossier APA. Donc là, tout va dépendre de ses revenus. Hein. L'APA, en revanche, c'est par rapport à ce qu'a la personne et de son degré d'autonomie. C'est-à-dire que l'APA va identifier un GIR, on appelle ça un GIR. Quand tout va bien, on est en GIR 6. Quand tout va vraiment mal, on est en GIR 1. Et donc, en fonction de ce GIR, on a le droit à un certain nombre d'heures par mois et l'accueil du jour va rentrer dans ce plan d'aide.
Ah, ok.
Voilà.
Ouais, donc, ça, c'est pas trop lourd financièrement pour les familles, finalement.
Alors, une journée ici, c'est... c'est un tarif fixe par le département.
48 euros.
Voilà, 48,53, je crois. Voilà, 48. Donc ça, c'est notre base tarifaire.
Pour la journée ?
Pour la journée. Transport, repas, journée. Et après, sur ce tarif-là, il peut y avoir une aide à pas ou pas, s'il n'y a pas de dossier à pas. On n'est pas obligé de faire un dossier à l'APA. Hein.
D'accord.
Ça dépend des personnes.
Okay. Ça ne me paraît pas excessif. Hein.
Mais ça dépend. Il y a des gens qui trouvent que c'est très cher et puis d'autres qui nous disent « Oh, mais ça reste... » Après, ce n'est pas nous qui fixons le tarif. Le tarif, il est évidemment fixé par le conseil départemental puisque nous sommes une association à but non lucratif. On est un établissement médico-social et le tarif est fixé par le conseil départemental et revu tous les ans.
Ok.
Voilà.
Et du coup, l'équipe est composée de quel type de professionnels ?
Donc, il y a des aides-soignantes, une aide médico-psychologique. Elles sont trois. Aide-soignante, aide médico-psychologique, une psychologue moi-même à 20% auprès des personnes accueillies et un intervenant en sport adapté.
Ça veut dire l'équipe à peu près fixe.
Et un chauffeur. Bien sûr. Bah, du coup, même deux chauffeurs. Une infirmière responsable de l'accueil de jour. Une secrétaire comptable. Et voilà. Et après, tout au long de l'année, on va répondre à différents projets. Donc, il peut y avoir d'autres professionnels qui peuvent intervenir plus ponctuellement.
Oui, des intervenants qui ne sont pas forcément...
En fonction des projets sur lesquels on est sollicité. Ouais.
D'accord.
Donc, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui vous semble intéressant à transmettre sur le centre lieu d'être ?
Ben oui, que c'est un joli dispositif, qu'en 2009, c'était un peu innovant d'être un accueil de jour autonome, c'est-à-dire qu'on n'est pas rattaché à un centre hospitalier ou à un EHPAD. Ça veut dire, du coup, qu'on a pu créer aussi des outils et une façon de travailler qui correspond à ce qu'on appelle le maintien à domicile. Donc, les salariés ne travaillent pas en blouse blanche. On est quand même très identifié domicile et pas institution. On a eu la chance aussi dans notre parcours de déménager il y a 2 ans et demi. Nous avons construit une maison qu'on a imaginée aussi en fonction de nos habitudes qu'on avait prises depuis 2009. Donc la maison est de plein pied, elle ressemble à une maison tout à fait ordinaire, avec une cuisine équipée ordinaire, avec un jardin, avec des beaux cèdres classés, avec un collège en face parce qu'on est dans la vie locale. On reste des citoyens qui partageons une journée ici, ensemble, dans cette maison.
Est-ce qu'il n'y a pas des jeunes qui viennent de temps en temps, les troisièmes, qui font de l'immersion
Oui, on a beaucoup de stagiaires parce que on a ce collège en face. Donc, le collège en face nous permet aussi de monter des projets avec certains profs.
Oui, l'année dernière, il y a eu le projet écriture d'une poésie où les personnes ont pu participer à un concours de poésie avec des élèves de quatrième, il me semble, hein, ouais, avec l'enseignante de français. Donc, c'était super. Et sur toute l'année, ouais. C'est des belles rencontres. D'autant que dans les personnes accueillies, on a des anciens enseignants aussi. Donc, ça va faire aussi un rappel de tout leur parcours. Ils vont retrouver des habitudes de leur métier. Enfin, ça a été un beau moment de partage. Ils ont pu aussi aller visiter le collège, faire des rencontres dans le CDI du collège. C'est un établissement qui ne correspond pas à ce qu'eux ont connu. Ils l'ont connu pour leurs enfants, pour certains, et d'autres pour leurs petits-enfants. Et c'est des belles rencontres, ça. Tout à fait.
Alors, moi, ce qui m'intrigue, c'est de savoir qui a eu l'idée de monter ce projet à la base.
C'est une petite association c'était une association qui s'appelait Lieu d'être et qui a fait une étude de besoin à partir de 2005 sur le territoire. L'étude de besoin a bien identifié que c'était une possibilité, un lieu comme celui-ci. Donc à l'époque, il n'y avait pas d'appel à projet, ça a été proposé, ça a été accepté par le conseil départemental et l'ARS. Et ensuite, cette association Lieu d'être a donné la gestion à l'association des PPSRA.
Ah, ok.
Voilà, mais au départ, c'est quand même une idée d'une association locale.
Qui est toujours en activité, enfin dans le...
Qui est toujours, qui existe toujours et qui propose d'autres choses.
Ah, ok, qui a changé de...
Qui s'occupe toujours de personnes plutôt atteintes de troubles cognitifs, mais qui propose plutôt... je ne sais pas trop actuellement, mais...
Ils sont sortis, en tout cas.
Okay. Oui.
C'est dommage, c'était leur projet.
Non ?
Oui, ils sont passés à autre chose.
Ils étaient là au début pour la mise en route et la passation. Okay. Et puis après, petit à petit, en effet, c'est une grosse association, les PPSRA. Donc, c'est un autre fonctionnement qu'une petite association locale. Donc, après, c'est beaucoup plus structuré avec un dispositif peut-être un peu plus cadré qu'une association locale, ce qu'elle peut des fois apporter. Donc, une fois que le projet a été bien pris en charge par cette plus grosse association, ils sont partis sur d'autres projets, finalement.
Ouais. Parce que c'est peut-être plus facile d'avoir une grosse structure, j'imagine, parce que vous êtes toujours en lien avec l'ARS, etc., pour les projets, pour les budgets et tout ça, hein, c'est ça ?
Il y a plus de poids, oui.
Oui, c'est important. Oui, oui. Puis une grosse association, ça veut dire aussi des fonctions support, ça veut dire un directeur administratif et financier, une directrice des ressources humaines. Enfin, on a toute une équipe à disposition aussi.
Alors, on va revenir juste sur la plateforme. Donc, un aidant peut avoir un numéro, donc je le mettrai sur le site de la radio, comme ça, on ne sait jamais. Donc, appel en disant, moi, j'ai des vacances, comment ça peut se passer et vous étudiez, il y a des délais d'attente, il faut appeler, j'imagine, c'est en avance. Fin...
Oui. Ouais. Oui, oui, après, c'est comme toute chose, on ne peut pas envoyer au domicile d'un usager, un professionnel, sans avoir au préalable fait une visite à domicile, évaluer les besoins. Parce qu'un aidant, on va lui faire aussi un projet, c'est-à-dire qu'on va évaluer avec lui le besoin, identifier ce qu'il faut mettre en place. Et ça se fait, ça se prépare. Ensuite, une fois que ça c'est fait, effectivement, si cet aidant, de façon un peu régulière, en tout cas une fois tous les trimestres, il a besoin de s'absenter un week-end, on peut le faire ensuite beaucoup plus de façon beaucoup plus légère, puisqu'on connaît déjà la famille, on connaît la maison, on connaît le professionnel qui intervient. Donc la relation de confiance s'est créée et bien souvent on arrive à trouver le même professionnel qui intervient sur le territoire. Donc on a une professionnelle, nous, qui travaille à mi-temps sur la plateforme et qui propose du répit dans le cadre des haltes répit sur le côté de Saint-Jean-Royan et Tain-l'Hermitage. Mais cette professionnelle peut aussi de façon ponctuelle intervenir au domicile des usagers.
C'est quoi halte?
Les haltes répit, c'est des dispositifs qui sont donc à destination des aidants. C'est-à-dire que l'aidant, il va pouvoir confier son proche aidé une demi-journée par semaine sur des lieux qu'on va appeler des lieux d'activité occupationnelle. Okay. Le but n'est pas de faire un projet d'accompagnement pour la personne aidée, mais le but est au contraire de soulager son proche aidant. Donc on va dans ces lieux qui sont évidemment très adaptés, accueillir les proches aidés, proposer une activité sur une demi-journée. Donc le mercredi, c'est en partenariat avec l'escale répit atteint l'ermitage. Le jeudi, c'est à Saint-Jean-en-Royan. On a des professionnels qui sont sur place et on accueille les personnes aidées avec l'idée, derrière évidemment, de soulager et de permettre un temps de répit à l'aidant.
D'accord, donc ça c'est...
Que des demi-journées par contre.
Que des demi-journées.
Pas une demi-journée par semaine ou un
c'est
truc ça, comme ça
oui, c'est
Il
n'y
a qu'une demi-journée par semaine. Ouais.
Okay. Et ça c'est une personne qui s'occupe de ces deux demi-journées.
C'est ça, ok.
C'est ça. Elle propose quoi finalement, des activités
C'est plutôt des alors encore une fois, on différencie bien des activités qui peuvent être à visée thérapeutique ou pas. Une halte répit n'est pas à visée thérapeutique pour la personne aidée, elle va être vraiment à visée occupationnelle et socialisante. C'est un lieu de partage et d'échange pour les aider entre eux, avec un professionnel. Mais pendant ce temps-là, encore une fois, c'est l'aidant qui va lui bénéficier d'un temps à lui pour aller à son cours de sophrologie ou à la piscine ou que sais-je encore. Mais en tout cas, faire des courses en dehors d'un temps défini par de l'aide à domicile ordinaire à pas chez lui. Là, c'est vraiment, il prend le temps de déposer son proche à un endroit où il sait aussi que son proche va être en relation avec d'autres personnes. Et voilà.
Et il n'y a pas une demande de plus importante à ce niveau-là? Il n'y a pas un besoin plus important? Parce que ce n'est pas beaucoup, une demi-journée par semaine.
Mais après, si vraiment, si c'est pour le répit de l'aidant, nous, on ne pourra pas aller au-delà. Si c'est pour le bien-être de la personne aidée, peut-être que c'est une personne aidée qui sera amenée à bénéficier d'un lieu comme nous en accueil de jour, ici ou dans d'autres établissements. Mais là, le format de 3 heures pour certains aidants, c'est suffisant.
Oui, c'est pas ce que je voulais dire. C'est-à-dire qu'il peut y avoir beaucoup de demandes,
oui,
enfin, des aidants qui ont besoin. Et que, parce que j'imagine que c'est limité au niveau des personnes. Vous avez quoi, 6 personnes, t'as un truc comme ça, non?
Alors, atteint l'ermitage, comme le lieu est un peu plus grand, et puis il est quand même très neuf, hein, l'escalerie, puis c'est assez neuf, ils peuvent aller jusqu'à 9 personnes aidées. Accueillis sur l'après-midi du mercredi. À Saint-Jean, on a un lieu qui est plus petit, on accueille entre 5 et 6 personnes aidées.
D'accord.
Mais aujourd'hui, c'est tenable et ça va.
Ah oui.
Oui, oui.
Il n'y a pas plus de demandes.
Alors non, hélas, il n'y a pas plus de demandes, mais je pense aussi que parce que les gens ne connaissent pas forcément tout ce qu'il y a à disposition, quand on n'est pas concerné, on ne cherche pas. Par contre, quand on est concerné, les gens peuvent rapidement trouver des solutions. Il y a beaucoup de choses aussi qui sont mises en ligne sur Internet, des dispositifs à destination des aidants. Il y a beaucoup de choses qui se font en ligne, des formations. Et puis, on peut trouver sur Internet des sites qui répertorient un peu toutes les aides du territoire.
Et on peut imaginer que, par exemple, s'il y avait plus de demandes, ça pourrait s'agrandir ou pas? Ou rajouter une semaine
Bien
de, enfin une journée de plus, par exemple.
Bien sûr,
oui, oui, oui.
Ça c'est tout à fait. Dans l'ordre
tout à fait, tout à fait. Si des territoires identifient que ce serait bien d'avoir une demi-journée en partenariat avec un dispositif comme le nôtre, ça peut se réfléchir évidemment si c'est sur notre territoire géographique.
Oui, oui, bien sûr.
Mais ça c'est toujours lié à cette association ici.
Oui.
Ces deux processus,
oui.
D'accord, ok.
Oui.
Ok, ça n'a rien à voir avec les communes en fait. Hein.
Non,
d'accord.
Non.
Le lieu peut être proposé par une commune peut-être, par exemple à Saint-Jean, peut-être c'est ça?
Alors à Saint-Jean, c'est un lieu qui est partagé avec le CMPP qui est porté par la même association, hein, par les PEP.
Okay.
Donc en fait, l'idée c'est de potentialiser un peu des lieux. Donc ce lieu à Saint-Jean, il héberge nous en tant que répit le jeudi après-midi. Mais il héberge le CMPP le mardi et également une ergothérapeute qui partage les lieux avec nous parce qu'elle est en libéral et que ben, le lieu lui semblait tout à fait adapté pour partager et mettre à disposition chacun un jour. Donc ça aussi, ça rentre dans une évolution qui est un peu logique de faire du partage de lieux. Quand on est ergothérapeute, on peut partager son bureau avec un psychomote quand il n'est pas là.
Mmh.
C'est très simple, en fait, de signer des conventions comme ça de partenariat.
Mmh.
Donc, voilà.
Donc, ça veut dire que vous vous étendez jusqu'à Saint-Jean?
Mmh.
Ouais. Il y a des gens qui viennent ici qui peuvent venir de Saint-Jean ou pas? Ou c'est quand même limité au niveau kilomètre?
C'est limité au niveau kilomètre ici. On est à 20 km aux alentours de Romans.
Ok.
Ouais.
Donc ça peut aller jusqu'à même Alixan. un peu.
Ouais. En fait, c'est 20 km, mais sur une certaine typologie géographique. C'est pas nous non plus qui la décidons. Oui, c'est ça.
D'accord.
C'est ça.
Puisque parce que ça, après, c'est Valence, peut-être.
Après, c'est Valence. Ah, voilà, c'est ça. Oui. Les gens qui vont être sur Chabeuil, Montélier, vont dépendre des dispositifs qui sont portés sur la ville de, enfin, à la, sur la ville de Valence.
Alors, est-ce qu'à Valence, il y a le même type de, d'établissement, accueil de jour ou pas ?
Accueil de jour.
Qui fonctionne vraiment sur le même.
Alors, non, je ne pense pas. Mais non, qui est rattaché
dans un EHPAD.
C'est un accueil de jour qui est dans un EHPAD, mais qui aussi est porteur d'une plateforme de répit pour les aidants. Après, il y a pas, il y a un cahier des charges pour les plateformes, mais chaque plateforme va gérer son cahier des charges en fonction des besoins de son territoire. Nous, on n'est pas un territoire hyper urbain du côté de Romans et des environs, donc on fait plus de choses au domicile. Valence, qui est un territoire plus urbain, a une plateforme où il se passe beaucoup de choses dans son lieu, enfin, au sein de, son, de sa plateforme.
Comme quoi, par exemple ?
Comme des ateliers de danse, de sophro, de yoga, qui sont proposés aux aidants dans la plateforme.
Ah, aux aidants ?
Oui, aux aidants. Et les aidés sont accueillis sur le site de la plateforme. Mais ils proposent aussi un accueil de jour, de la même façon que nous, au sein de l'EHPAD.
Ah oui, d'accord. Okay.
Mais l'EHPAD, je trouve que ça n'a pas la même... Enfin, j'imagine que pour les gens qui viennent, ça n'a pas la même résonance.
Non ?
Oui, après, ils font aussi un très bon travail, donc ça...
Non, c'était pas...
Oui, la, l'image que ça peut renvoyer, oui.
Pour la personne qui vient.
Oui. Ça va dépendre des personnes, ça va dépendre de leur histoire aussi. Il y en a qui ont eu leurs proches dans telle maison de retraite, un parent par exemple qui était à la maison de retraite de l'hôpital, bah, ils ne s'y voient pas y mettre leur conjoint à l'accueil de jour, mais parce qu'il y a une histoire derrière. Après en soi, ils ont des très beaux locaux, identifiés pour l'accueil de jour aussi. Il y a des listes d'attente dans tous les accueils du jour, donc il ne faut pas se fermer les portes. Il faut s'inscrire là où, un peu de partout, et puis après, il faut tester et voir si le dispositif correspond ou pas. Des fois, on peut être surpris.
Ouais. Non, parce que j'imagine que, par exemple, une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer, ça peut, elle peut l'avoir à 65, entre 65 et 70 ans.
Oui.
Donc, c'est vrai que mettre le pied dans un EHPAD, c'est peut-être un peu compliqué. Enfin, je ne sais pas, j'imagine.
Oui, oui. Oui, ça peut être compliqué. Après, maintenant, il faut voir pour qui c'est compliqué aussi. Est-ce que c'est pour la personne accueillie que c'est compliqué ou pour son proche aidant ? Et donc, dans ce cas-là, c'est un travail qui va se faire au fil des mois. La personne accueillie, elle, quelles sont ses attentes ? On accueille des personnes beaucoup plus jeunes. Il peut y avoir 20 ans d'écart entre deux personnes au sein de notre groupe. 20, des fois même plus, 30.
Mais ici, la connotation n'est pas la même puisque ce n'est pas un EHPAD. Donc, est-ce qu'ils savent vraiment où ils viennent ? Non, ils viennent passer une journée. Enfin, non.
Ils viennent quand même avec l'idée, on va passer une journée avec d'autres vieux. Et en fait, on a tous une notion différente de la vieillesse. On peut avoir 80 ans et se dire, moi, je n'ai rien à faire avec ces vieux. On peut en avoir 60 et se dire, bah, je me sens très bien ici. Ah bon, ils sont plus âgés que moi, je n'avais pas remarqué. Donc ça, c'est vraiment notre imaginaire très personnel, en fait. Donc, l'accueil de jour, qu'il soit autonome ou rattaché à une maison de retraite, ça va être l'ambiance qui va primer. Alors, c'est sûr que le premier contact est particulier quand ils sont portés par une maison. Les personnes sont en blouse. Donc déjà, il y a cette image-là. Mais bon, des fois, certains ne le remarquent même pas. Tout va dépendre de la personne qu'ils vont avoir en face d'eux. Il ne faut pas se fermer les portes, il faut tester. Et on a eu des personnes qui venaient ici et qui viennent aussi et qui vont en parallèle dans d'autres accueils de jour et qui arrêtent chez nous pour continuer dans l'autre accueil de jour parce qu'ils s'y sentent mieux. Et des fois, l'inverse. Ils arrêtent ailleurs pour rester ici parce qu'ils s'y sentent mieux. Ça, c'est très individuel. Personnel. Oui, très personnel.
Il est déjà arrivé que quelqu'un vraiment n'y arrive pas, quoi. À l'accueil.
Oui.
Qui est accueilli et qui dit, bon, je n'y arrive pas.
Ça peut arriver, oui. C'est plutôt rare quand même.
C'est plutôt rare, ouais. C'est
mais
que,
ça peut arriver.
C'est que soit ça arrive trop tard dans le parcours de la personne et ça n'a plus de sens. En fait, ce qu'on dit souvent ici, c'est qu'il faut que ça ait du sens. Il faut que ça... Ouais, vraiment que ce soit sensé de venir ici passer une journée. Si la personne n'a plus de repères, si la personne est vraiment trop perdue ou si elle a une maladie aussi qui peut générer des gros troubles du comportement, ce sera pas adapté. Mais dans le fond, c'est peut-être même des personnes qui seront
adaptés dans peu de lieux, si ce n'est chez eux, dans leur domicile. Mais on a eu peu de situations difficiles à accompagner comme ça.
Ouais. Là, sur 2025, j'ai pas d'exemple qui me vient, par exemple.
Ouais. Est-ce qu'il y a aussi des accueils pour les personnes handicapées physiques ou ça n'a rien à voir? Vous en avez aussi, j'imagine?
Qu'ont des mobilités réduites?
Oui, voilà.
Oui, il peut, bien sûr. Une maladie neuroévolutive peut entraîner une perte de la mobilité. Donc,
en tout cas, vous avez aussi la faculté de les accueillir.
Oui, on accueille aussi. Oui.
Mais par rapport au transport, on a une place pour un fauteuil roulant, par exemple. Mm-hmm. Après, on a plus de personnes en fauteuil roulant, dans ce cas-là, nous, on ne pourra pas forcément organiser le transport, mais on ne ferme pas les portes. On peut quand même accueillir les personnes.
Donc, la personne peut venir par ses propres moyens, hein, j'imagine.
Ce n'est pas une obligation non plus de venir
en... Non. Non, non, on a une dame qui venait, son mari l'a déposée parce que c'était plus facile avec son véhicule qui était adapté au fauteuil roulant, mais elle venait quand même une fois par semaine. Donc ça, c'est pas un problème.
D'autant que le transport, c'est sûr que c'est un plus, mais il faut savoir que les personnes, la personne qui est prise en premier, le temps qu'elle arrive ici, elle a bien une heure, voire une heure et demie de trajet. Donc on peut habiter Mours et avoir une heure et demie de trajet pour venir ici. Donc ça peut être mal vécu aussi. Donc, des fois, le transport n'est pas forcément supporté par la personne accueillie. Dans ce cas-là, ce n'est pas pour autant qu'on ne va plus l'accueillir. On va envisager d'autres solutions, d'autres possibles, en accord, bien sûr, avec la personne elle-même et puis son aidant principal. Mais le transport est un plus, mais si c'est un frein pour l'accueil du jour, on l'envisage autrement.
Est-ce que vous avez, je sais pas, un exemple d'activité un petit peu, on va dire, originale que vous auriez pu proposer sur le lieu?
Original.
Ouais, quelque chose d'un peu original, je sais pas. Ouais.
Sur 2025, qu'est-ce qu'on a fait d'original?
Bah, il y a eu le concours de poésie, ça quand même, ça nous a bien tenu tout le début d'année 2025. Avec l'écriture d'une poésie en collaboration avec une classe donc de quatrième. Après...
Vous faites des sorties, j'imagine.
Oui, 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 oui. Il y a eu une sortie calèche sur laquelle on s'est greffé, proposée par la ville de Romans.
Presque toutes les activités peuvent être considérées comme originales parce que cuisiner ici le matin, ça peut être original.
Donc, ils font la cuisine.
Les personnes cuisinent tous les matins dans le cadre d'un atelier gourmand pour faire la collation de l'après-midi. Il peut y avoir des ateliers philosophiques pour qu'on réfléchisse tous ensemble à des notions de ce qui se passe dans la vie de tous les jours et comment les gens vivent ça en vieillissant, en perdant aussi certaines capacités, comment on s'y adapte. L'activité physique adaptée est quand même aussi, peut être en tout cas très originale, puisqu'ils ont fait ici, ils ont fait du tir à l'arc, ils ont fait
du bowling.
Il y a beaucoup de choses qui sont proposées.
De la balançoire.
Ils vont au parc et ils font de la balançoire.
Tout peut être original. Ouais, on propose aussi des ateliers d'esthétique avec les aides-soignantes ici, sachant qu'on n'est pas des esthéticiennes, mais qu'on peut proposer quand même des poses de vernis ou des choses agréables pour les personnes qui le souhaitent.
Oui, en fait, les supports sont variés. Ce ne sont que des excuses pour passer un bon moment, pour discuter, rigoler, parler de soi, s'intéresser aux autres. Mais en soi, les supports, c'est un petit peu des excuses à ces stimulations-là.
Puis on a quand même un beau baby-foot.
Oui, que les dames adorent, pas que les messieurs, tout à fait.
Ah ouais.
Alors ça peut sembler une activité originale, puisqu'une commune nous avait proposé un don une année, un don financier pour nous, pour l'accueil de jour lieu d'être. Donc quand moi j'ai soumis l'idée aux bénéficiaires, ils m'ont tous dit qu'ils voulaient un baby-foot parce que franchement c'était un truc sympathique qui rappelait des souvenirs. On peut y jouer debout, on peut y jouer assis puisqu'on a des tabourets hauts et tout le monde s'y met. Et franchement ça, en termes d'intergénérationnalité, ça marche très bien. Quand les collégiens viennent, ils aiment bien aussi jouer au baby-foot. C'est très joyeux et c'est joli. C'est un joli objet, ce baby-foot. Qu'on avait commandé sur un site français. Enfin voilà, c'est un truc aussi, un bel objet qui fait partie des murs et qui est vraiment très sympa.
Mmh. Mmh. Et
Il n'y avait pas un projet d'accueillir des gens pour dormir ou il n'y avait pas une envie d'étendre un peu le sujet ou non, ça
ne
marche pas.
Si, mais c'était notre projet à la base quand on a monté la maison, là, il y a 3 ans, d'avoir 2 chambres pour pouvoir proposer du répit ponctuel à des aidants, mais c'est toujours pas validé parce que c'est un peu compliqué à mettre en place. Nous sommes engagés aussi, ça c'est important de le dire, on s'est engagé il y a 2 ans sur une labellisation. Donc on a souhaité, nous, entrer dans un label de bientraitance qui s'appelle Humanitude, donc qui nous demande beaucoup de travail parce qu'il faut vraiment intégrer certains critères dans notre pratique professionnelle, mais au moins pour être garant d'une bientraitance en acte, donc d'une bientraitance active. Et ça, c'est hyper intéressant pour nous, les professionnels, de travailler sur un label comme ça.
Et alors, ça se passe comment on demande un label et puis quoi? Il se passe quoi?
Il se passe que pendant 5 ans, il faut qu'on montre patte blanche régulièrement. Il faut faire des auto-évaluations tous les ans. Il faut remplir un certain nombre de critères qui sont quand même assez... élevé, hein, on a peut-être 150 critères.
Oh oui, bien.
À peu près, voilà. Ouais. Ça va de comment se passe l'entrée des personnes ici, jusqu'à notre tenue, jusqu'à notre façon de parler, jusqu'à notre façon de les regarder. Enfin, il y a des critères qui sont quand même très intéressants et qui vont garantir que dans cet établissement, il y a un vrai travail autour de la bientraitance à tous les niveaux, c'est-à-dire que quel que soit le professionnel qui intervient ici, quel que soit le stagiaire qui vient ici, il y a une charte en humanitude. Pour ceux que ça intéresse, il faut aller voir ce que c'est que humanitude. C'est ramener l'humain au cœur du métier de l'accompagnement, ramener l'humanité au cœur du métier de l'accompagnement, et pas juste proposer du soin ou de l'accompagnement, mais c'est être dans une démarche humaine, humaniste et pleine de sens.
Donc, ça veut dire qu'en fait, comme vous êtes une équipe, j'imagine qu'il y a une réunion, peut-être, où vous travaillez là-dessus, où chacun se remet en question par rapport, par exemple, à une attitude ou des choses comme ça?
Tout à fait, c'est ça. Tous les mois, nous avons des réunions humanitude.
Tous les mois.
Okay. Avec, voilà. Puis nous, individuellement, on travaille chacune sur nos critères, puisqu'il y a certains critères qui ne concernent que le responsable de l'établissement, que la psychologue, que la personne en charge de la mobilité.
Ça peut
être très spécifique, puisque c'est aussi l'idée que chaque collaborateur ici puisse se saisir de sa partie, travailler sa partie. Une aide-soignante va peut-être être mise sur le... Je prends un exemple, le circuit du médicament. Donc, comment on garantit ici l'efficience du circuit du médicament en étant le plus bien traitant possible pour les bénéficiaires qui viennent ici.
Et j'imagine que ça doit s'étendre aussi dans le travail d'équipe, c'est-à-dire entre aussi les professionnels.
Oui, entre les professionnels, on peut se... On peut être amené à faire des audits, entre guillemets, entre nous et oser reprendre notre collègue quand on lui dit, j'ai trouvé que c'était pas OK comme tu parlais à cette personne. Est-ce que tu sais pourquoi? Et on revisite un peu sans dire qu'on fait de l'analyse de pratique au quotidien, mais c'est au moins réfléchir nos pratiques, en tout cas au quotidien.
Et ça serait bien de l'analyse de pratique ou pas? Non?
Il y en a aussi.
Il y en a
pour l'équipe d'animation.
Oui,
elles ont de l'analyse de pratique.
Ah, une fois tous les 2 mois
Une fois par trimestre.
Une fois par trimestre. Donc là, elles ont rendez-vous à l'extérieur, j'imagine.
Non, ici.
Avec un psy.
C'est quelqu'un qui a une formation, en tout cas, en APP, qui était art-thérapeute, qui a plusieurs diplômes utiles pour mener de l'APP ici à l'équipe.
Oui, parce que j'imagine
quand même que c'est important. Mais alors, comment on accède à ce label? C'est parce que vous travaillez entre vous, c'est donc ça. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui peut dire, oui, OK, vous êtes OK.
Ah, si.
Si.
C'est le but.
C'est le but. Donc, on est accompagné pendant 5 ans.
Ah,
okay. On a des réunions, on a des journées fléchées 2 fois dans l'année avec la responsable humanitude de notre territoire qui nous dit sur quoi il faut qu'on travaille, comment il faut qu'on le travaille. Nous, ensuite, on le travaille. On va répondre à une auto-évaluation annuelle. Et puis, cette auto-évaluation va nous donner une démarche d'amélioration du travail mis en œuvre. Et puis, si tout va bien, dans 5 ans, on aura bien travaillé. Mmh. Et ensuite, c'est un cabinet extérieur qui viendra et qui testera si oui ou non, on coche toutes les cases attendues dans ce label. Okay.
Et voilà. Une fois qu'on a ce label, il se passe quoi ?
Il se passe que de toute façon, on sera amené à tout le temps garantir que la qualité du travail réalisé ici est conforme aux exigences de ce label de bien-traitance.
Et oui. Et donc, ça veut dire que toutes les personnes entrantes vont devoir aussi s'adapter, retravailler, etc.
Mmh. Oui, exactement. Qu'il y a un lien entre chaque professionnel avec les mêmes valeurs, les mêmes objectifs, tout à fait, oui. Ça crée vraiment une cohésion d'équipe, en fait, et une qualité de travail... commune.
Mm-hmm. Bon, là, vous travaillez ensemble depuis longtemps.
Oui.
Oui, oui, on est...
12 ou 13.
Ouais. Moi, je suis arrivée au tout début. Cindy est arrivée un peu après. Mais oui, bien sûr. Et puis, sur des dispositifs un peu innovants comme ça, comme il y a eu beaucoup de choses à créer au départ, on prend aussi des habitudes. Et c'est bien, du coup, de réinterroger les habitudes. C'est bien toujours de remettre du sens dans ce qu'on fait ici, de ne pas rester sur des acquis, de ne pas tomber dans une routine et de se rappeler que chaque personne est différente, que la maladie, elle touche... oui, on a parlé de 20 ans d'écart, des fois, c'est beaucoup plus. Hein. On a eu des personnes de moins de 50 ans qui sont venues ici, on en a qu'en 97 ans. Mmh. Il faut s'adapter à toutes ces personnes-là et le but, c'est d'avoir quand même un cadre très précis dans lequel il faut travailler.
Est-ce que ça existe ailleurs ? Vraiment le même fonctionnement en France.
Oui, bien sûr, il y a d'autres accueils de jour autonomes,
ouais.
Dans le territoire Auvergne-Rhône-Alpes. On n'est pas très nombreux quand même, on ne va pas se mentir. Hein. Je crois qu'il n'y en a qu'un seul en Auvergne-Rhône-Alpes qui fonctionne comme nous, c'est-à-dire autonome
oui,
et pas rattaché
à
un établissement. Mais ça se fait.
Ça se fait. Ça n'a pas fait beaucoup de petits, je dirais, quand même. A priori, pourquoi ?
Parce que c'est compliqué aussi au quotidien d'organiser les transports, les repas, d'aller chercher les gens, de gérer les listes d'attente. Et puis que les volontés n'étaient pas là au départ. Hein. Les volontés étaient aussi de mettre les accueils de jour dans les EHPAD pour que les gens commencent à... que ce soit un peu plus inclusif. Et puis finalement, ce qui se passe, c'est que dans les EHPAD, les accueils de jour, ils ont pas toujours non plus rempli, alors que nous, on a quand même plutôt un bon fonctionnement. Mais là aussi, ça dépend du projet des personnes, du projet des établissements. Et voilà. Et puis non, on n'a pas la main là-dessus. Nous on fait...
Vous n'avez pas de lien avec d'autres...
Si.
Les autres accueils de jour du territoire, oui.
Oui.
Mmh. Moi, je suis en lien avec un accueil de jour qui se trouve dans l'Ain. À Rérieux, parce qu'on a quasiment commencé en même temps, qu'on fonctionne quasiment de la même façon et qu'on sait aussi qu'on a des exigences attendues par nos financeurs qui sont les mêmes. Donc, on fait des petits points réguliers ensemble
et
c'est chouette, oui. Mmh. Mmh.
Alors, on s'arrête là ou...
Ah oui, on peut s'arrêter.
Mais là, je crois qu'on
pense avoir tout dit.
Si les gens sont curieux, ils peuvent aller sur notre page Facebook Accueil de jour lieu d'être.
Ah, très bien.
Où on essaye aussi de mettre ce qu'on vit ici, ce qu'on fait ici. Et puis sur le site de l'association des PPCRA également.
Donc je mettrai tout ça sur le site de la radio, comme ça les gens, si vraiment ça les intéresse. Enfin, la radio est quand même à créer, donc j'imagine que créer, ça sera plutôt sur Valence plus qu'ici.
Bien sûr.
Voilà. Mais on ne sait jamais, ils ont peut-être de la famille dans le coin.
Exactement.
Et ça peut toujours être ça. Merci Sophie et Cindy.
Merci.
De rien.
Merci.
Je vous envoie quelques mots dans un oiseau mécanique pour vous donner des nouvelles. Vous les recevez. décevrai bientôt si elle vous paraît si logique. C'est que mes souvenirs s'en mêlent. Même si hier c'est rien, que je ne m'en souviens plus bien. Les proches c'est loin. Écrivez mon nom quelque part, ne m'oubliez pas. Rangez-moi au fond d'un tiroir, ne m'oubliez pas. Je vous envoie quelques lignes qui s'abîment dans le vague. C'est ça de pêcher dans le noir. D'éviter les écueils, je jette l'encre sur une feuille avant de perdre la mémoire. Si un jour je reviens, que je me rappelle enfin, les proches c'est loin. Écrivez mon nom quelque part, ne m'oubliez pas. Rangez-moi au fond d'un tiroir, ne m'oubliez pas. Si un jour je reviens, rappelez-vous enfin. C'est loin. Écrivez mon nom quelque part, ne m'oubliez pas. Rangez-moi au fond d'un tiroir, ne m'oubliez pas.
On pourrait faire une capsule temporelle.
On referme la capsule temporelle et on se donne rendez-vous le mois prochain.